Bonjour à tous, c'est un privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Alors, on va attaquer un gros morceau ce matin. Au départ, c'était prévu en deux temps. Je l'ai travaillé en début de semaine et j'ai dit à Mathieu, je crois que le chapitre 7 fait un ensemble. Pourquoi essayer de le déconnecter en deux? Alors, on verra pas tous les détails, mais on va aller à l'avancement. Mais ce qu'il faut pas oublier, alors j'espère pour ceux qui étaient là dimanche dernier, Paul il parle dans la un peu dans la même thématique. Vous rappelez la semaine dernière, c'était notre corps appartient à Dieu, notre vie appartient à Dieu. Ils sont unis et que rien ne devrait faire obstacle à cette unité, à cette union. On devrait pouvoir le glorifier. Je trouve que la lettre de Corinthiens, elle est très éthique. Elle parle de sujets éthiques. Ça veut dire avoir un style de vie, un comportement de vie qui doit prendre en compte cette nouvelle identité, mais aussi que on a envie d'écouter la parole de Dieu. Ce matin, j'ai donné comme titre à ce chapitre 7 de 1 Corinthiens, vivez votre appel. Vivez votre appel. L'église de Corinthe est une jeune église. Il y a tout un tas de situations différentes. Il y a différents contextes, il y a différents types de personnes. Mais ce texte s'inscrit dans ce qu'on a vu la semaine dernière et je voudrais, en attendant qu'ils arrivent à afficher le plan derrière, qu'on puisse avancer ensemble. J'aimerais simplement qu'on relise les versets 19 et 20 du chapitre 6 parce qu'en fait, ils font vraiment l'articulation. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, ou pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Donc là, on est vraiment, là, on a dans ces deux versets-là, même dans le dernier verset, on pourrait dire le verset 20, on a un peu le fondement et c'est peut-être aussi la grille de lecture pour le chapitre 7. Tu portes en toi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est quoi ça? Ça te parle de Dieu. Ça parle de ta sainteté. Ça t'aide quand tu t'égares à te réaiguiller. Ça t'aide à faire le bien. Ça te donne des désirs d'aller aider quelqu'un, d'être charitable, de régler des conflits, de pardonner, de plier le genou devant la sainteté de Dieu. On est habité du Saint-Esprit. Quand on n'est plus seul, quand on se lève le matin, ma vie maintenant, elle appartient à Dieu, ma vie maintenant, elle a un sens. Et lorsque tu connais du coup cela, cette vérité-là, lorsque tu connais Jésus-Christ, ça change tout et tu es appelé à vivre différemment. Tu es appelé à glorifier Dieu, à être à son honneur. Et du coup, tous les sujets abordés dans le chapitre 7 qui vont parler de mariage, de célibataire, de veuf, etc., s'inscrivent vraiment dans cette identité nouvelle. J'appartiens à Dieu, je suis revêtu du Saint-Esprit qui agit en moi et je suis amené à marcher de progrès en progrès, à l'honorer par ma vie. Et ça change tout. Alors j'ai déjà résumé ce chapitre 7, voilà notre appel, quel est notre appel? Ça reste dans cette même veine de ce qu'on voit déjà depuis quelques semaines, célébrer Dieu par nos corps et nos relations, en vivant pleinement les dons que Dieu nous a offerts, que ce soit le mariage ou le célibat. Célébrons Dieu par nos corps, par nos relations, en vivant pleinement les dons que Dieu nous a donnés, que ce soit le mariage ou dans le célibat. Alors je vous propose de prendre cette lecture du chapitre 7. Je vous invite vraiment à avoir le texte sous les yeux parce que on va aller un peu vite. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre, mais ne restez pas avec ces choses-là. Venez échanger à la fin du culte, à un autre moment. Voilà. Je vais le prendre partie par partie, comme ça, par gros bloc. Mais premier bloc, c'est les 16 premiers versets. C'est Paul qui parle, bien évidemment. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon, pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela non comme une concession, et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui sont pas mariés et veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari, et si elle est séparée de lui, qu'elle reste en se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante, et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs. Alors qu'en réalité, ils sont saints. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Des fois, je me dis, j'aimerais bien connaître cette église pour que Paul soit obligé d'écrire des sujets qui vont dans tellement de directions, on pourrait dire. Mais on voit au verset 21 que Paul répond à des échanges qui semblent avoir eu avec cette église, hein, au sujet de ce que vous m'avez écrit. Et c'est le sujet du rapport entre les hommes et les femmes. Alors c'est pas évident de savoir, je sais que les commentateurs sont pas toujours d'accord de se dire mais qu'est-ce que les Corinthiens ont dit. Mais le sens de la réflexion des Corinthiens devait être quelque chose du style, c'est pas spirituel pour un chrétien. Le rapport avec la sexualité, il y a plus de sexualité, voilà, il y a l'idée d'une consécration totale, et c'est en réaction à ce qu'on a lu la dernière fois où il y avait un peu la débauche chez certains. Se marier, c'est devenir un chrétien de second rang, donc voilà, c'était pas spécifiquement bien vu d'être marié. Et voilà, au point que certains iraient même à conseiller une séparation des couples si le conjoint n'est pas chrétien. Donc c'est un peu le sens du propos. C'est voilà, il y a certains qui mettaient, c'est plus spirituel cette situation que celle-ci. C'est plus spirituel de ne pas être marié. C'est plus spirituel de se séparer de ce qui n'est pas spirituel, un mari non chrétien par exemple. Et c'est peut-être aussi plus spirituel de se priver de relations sexuelles si on est marié. Et c'est un peu le début du passage. Mais la réponse de Paul est tout autre. On le voit, le mariage, tout comme le célibat, est un don de Dieu. Les deux sont bons. Et pour les deux, on le verra tout au long du chapitre, il y a des avantages et des inconvénients. Alors Paul donne deux réponses, hein, un peu à cette réflexion-là. Rester sans se marier est une bonne chose. Par contre, au vu de la situation de Corinthe, il encourage au mariage. Pour ceux qui n'ont pas le don de rester célibataire. C'est un peu ça, la réflexion. Et donc voilà, le premier titre que j'ai donné à toute cette partie, c'est « Vivre le don du mariage ». Alors c'est vrai que on sent, une position très personnelle de la part de Paul. Plusieurs fois, il dit « il est bon, il est bien, si c'était ça, je ferais si ». Voilà, on voit que pour Paul, le célibat est une belle option, peut-être la meilleure pour sa part. Il va donner un certain nombre d'éléments, d'arguments pour appuyer son positionnement. Mais comme il le dit, au verset 7, tel un refrain, chacun tient de Dieu un don particulier. Donc c'est pour ça que Paul, dans cette première partie, dit, mais vivez le mariage comme un don de Dieu. Alors, c'est pas le plus beau texte en faveur du mariage, vous allez me le dire, hein. Il y a des beaux passages qui parlent, qui soutiennent la beauté du mariage, qui sont beaucoup plus, voilà, beaucoup plus élaborés que ce texte-là, mais il est dans le pratico-pratique. Et alors, on voit un des premiers éléments, vivre le don du mariage, c'est vraiment une protection à l'immoralité. Paul conseille le mariage comme une protection en vue de la situation, en vue du contexte de corruption, de mœurs libérées à Corinthe. Dès le verset 2, vous pouvez voir, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, il encourage vraiment au mariage parce qu'au vu du contexte où ça va dans tous les sens, il vaut mieux d'être marié. Et ça prend tout son sens quand on lit le chapitre 5 et 6 avant, hein, où il était question d'inceste, où il était question de personnes qui allaient voir des prostituées. Versets 5 et 9, hein, il dit « pour éviter tout manque de maîtrise ». Il encourage le mariage et à vivre le mariage. Verset 9, il est clair, hein, « il vaut mieux se marier que de brûler de désir ». Il vaut mieux se marier que de faire n'importe quoi. Donc il encourage le mariage, mais à vivre le mariage, comme une protection, un cadre. Mais on le voit, il est question de ne pas se priver de l'un de l'autre. Donc il encourage, par rapport à ceux qui se disaient « vous êtes mariés, mais voilà, vous ne vivez plus de relations sexuelles », non, il dit « les rapports conjugaux font partie du mariage ». Verset 5, « ne vous privez pas l'un de l'autre ». Probablement, je le disais déjà, mais les Corinthiens, sans doute, disaient « considérer la sexualité comme quelque chose à mettre de côté de la vie chrétienne ». Non. Pour Paul, il en est hors de question. Ça se vit dans le cadre du mariage. Vivre le don du mariage. Une protection, mais moi, je trouve tellement révolutionnaire ce que Paul nous dit ici, parce qu'il y a un don réciproque. On est contre-culturel. Et moi, ça m'interroge sur parfois l'histoire de l'Église et la manière d'avoir parfois véhiculé les choses autour du mariage. Il y a une réciprocité parfaite, une égalité, un respect mutuel entre l'homme et la femme. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. On a dès le verset 2 cette symétrie, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son homme et son mari, pardon. Il y a une symétrie. Versets 3 et 4, je les relis tellement ils sont beaux, hein, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Là, c'est une réciprocité, une égalité. Il y a aucun écrasement, aucun diktat de l'un ou de l'autre. On a vu la semaine dernière, mon corps ne m'appartient plus, j'appartiens au Seigneur. Mais dans le cadre du mariage, Paul nous dit, mon corps m'appartient plus aussi, mais il appartient à mon conjoint. Mon corps appartient à mon épouse Ruth. Je suis au service de Christ, je suis au service de mon épouse. C'est contre-culturel. À l'époque, alors aujourd'hui aussi. Notre monde est centré sur soi. C'est moi qui dois être bien. Parce que je vaux bien, là, c'est L'Oréal. Non, parce que mon épouse le vaut bien. On va vieillir ensemble, je suis responsable aux yeux de mes épouses de me prendre soin de mon corps. Bien évidemment. J'appartiens à mon épouse. Paul est pragmatique. Et voilà, il est question d'une sexualité qui doit et qui l'encourage à être vécue dans le couple. Ça fait partie du cadre. C'est un don mutuel de réciprocité de l'un envers l'autre, de protection, d'une soumission. Ne vous privez pas l'un de l'autre, verset 5, il est clair, hein. Retournez ensemble, sauf si c'est pour un temps, pour prier. Mais il n'est pas plus spirituel de laisser ces choses-là de côté, bien au contraire. Ne vous en privez pas. D'où l'encouragement à ceux qui ne sont pas mariés ou à ceux qui sont veufs, si tel est le don ou l'appel du Seigneur, mariez-vous. Moi, je trouve que dans cet engagement réciproque, il n'y a aucune place dans la vie du disciple pour légitimer des abus, la violence sexiste ou sexuelle, un chantage, etc., affectif ou autre. Il y a une dignité, il y a un tel respect du vis-à-vis, vis-à-vis les uns envers les autres. Et moi, je suis attristé que quand on catalogue les chrétiens dans du patriarcat, là, il n'y a clairement pas du patriarcat. Il y a vraiment, on est don l'un envers l'autre. Et c'est pas plus spirituel d'être marié ou non, de se priver ou non de relations. Les implications pour un couple peuvent être claires, hein. On peut réfléchir à plein de choses là-dessus. Versets 6 et 7, Paul rappelle que chacun tient de Dieu un don particulier, que ce soit pour le mariage ou le célibat. On n'est pas dans toujours le même, il n'y a pas toujours la même saison, hein. Les mariés sont un jour veufs. Tout ce que Dieu donne est bon et honorable. Dans la deuxième portion de notre première portion, là, hein, de ces premiers versets, je trouve très riche la manière dont Paul poursuit un sujet qui n'est pas facile non plus. Mais dans le contexte où je disais nos corps appartiennent au Seigneur, notre corps est le temple du Saint-Esprit, je pense que certains ont dû dire ben, en fait, il n'y a plus place pour avoir une relation avec un non-chrétien. On doit se séparer. Et je trouve que la manière dont Paul développe et donne la suite de son positionnement sur ces ruptures, on voit combien Paul veut rassurer et veut montrer qu'en fait, le couple est un moyen de grâce extraordinaire dans le lien du mariage. Alors, parenthèse, hein, il n'est pas en train de valider un mariage mixte, mais il est en train de rassurer ceux qui sont convertis et qui vivent dans une relation mixte par rapport à quelqu'un de non-chrétien. Et Paul va à l'essentiel, hein, et c'est mon troisième élément de vivre le don, il encourage à une fidélité dans l'engagement. Versets 10 et 11, il va exiger la fidélité pour des chrétiens, pour un mariage chrétien. Et il rappelle l'enseignement de Jésus. Pas de séparation possible, pas de divorce. Les ordres du Seigneur sont clairs et faciles à comprendre. Non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare pas de son mari, que le mari ne divorce pas de sa femme. On est dans la même, toujours dans la même réciprocité. Il n'y a pas de rupture nécessaire. Alors, facile à dire, à vivre, à mettre en application. Je dirais extrêmement compliqué. Peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être moins facile d'être très clair. Aujourd'hui, on vit dans un contexte où on banalise facilement le divorce. Hein. On a une culture où c'est normal, au point où on se marie plus, parce que voilà, de toute façon, pourquoi quelques années après envisager un divorce? On a tous été touchés, de près ou de loin, par des divorces, des remariages, dans les familles, dans les relations, dans les amitiés qu'on peut avoir. Comment mettre en pratique ces enseignements de la parole, ou surtout ces sujets? Alors, ce matin, j'ai pas la prétention de développer tout ce qui est en lien avec ce sujet, mais la parole de Dieu, comment on peut avoir compassion et sensibilité qui est celle de Jésus-Christ? Pas facile. C'est un sujet à débat, à controverse entre chrétiens. Mais, et c'est le propos de Paul, c'est de montrer que c'est un lien tellement précieux qu'on ne doit pas envisager une séparation, la fidélité. Il y a un caractère précieux au mariage. Et je trouve que c'est un défi de voir le mariage, de voir la séparation comme Dieu nous amène à voir ces choses-là. Donc on devrait faire tout notre possible pour protéger la beauté, le don du mariage, la beauté de cette relation. Et je crois aussi que, quand je reviens au premier point, une protection à l'immoralité, peut-être que voilà, nous sommes aussi responsables de bien des choses. Mais l'évangile appelle à la repentance, au pardon, au rétablissement. Je me dis qu'à Corinthe, il devait y avoir toutes sortes de situations. Comment Paul a pu, avec beaucoup de sagesse et d'humilité, agir. Parfois, il a dû être radical. Parfois, il a dû faire grâce. Mais en tout cas, on a besoin du Seigneur. Et je prie que le Seigneur nous aide à voir la beauté, la grandeur du mariage à sa lumière. Et puis, il y a une plus grosse portion. Il dit pas que c'est l'enseignement du Seigneur, mais quand Paul y parle, c'est comme l'enseignement du Seigneur. Et je trouve qu'il parle avec tellement de justesse, de grâce. La fidélité est conseillée pour un mariage mixte. Il dit, allez toujours, un homme, une femme, une vie. S'il y a un lien, ne le rompez pas. Il n'y a pas de raison de le rompre. Il veut tout faire. Il encourage à maintenir la paix, à garder son mariage intact, à garder cette relation intacte. Il n'y a pas de raison à rompre vos engagements. C'est pas parce que maintenant vous êtes chrétien que vous devez tout mettre de côté. Si le non-chrétien souhaite continuer à partager votre vie à deux, continuez. Il n'y a pas de séparation systématique, radicale. Et il le dit, alors les raisons qu'il donne, c'est pas toujours évident à comprendre, hein, verset 14, hein, en effet un mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que tous les commentateurs sont pas toujours d'accord, il y a plusieurs raisons, j'en retiens que deux qui peuvent tenir la route. Il y a une influence spirituelle positive, il y a un bienfait, une grâce pour un conjoint non chrétien et leurs enfants d'ailleurs de bénéficier de quelqu'un qui craint Dieu, qui aime Dieu. Il y a une bonne influence, il y a une bonne saveur, il y a le goût de Dieu, on parlait du Créateur dans ce foyer. Un conjoint, il est au contact de l'Évangile, nos enfants sont au contact de l'Évangile. Mais Paul rappelle que c'est pas nous qui sauvons, néanmoins. Donc ça c'est une des pensées, c'est oui, il y a un bienfait, il y a une bénédiction, il y a l'Évangile dans ce foyer qui peut toucher, qui peut impacter plus largement que simplement la personne et le couple en est bénéficiaire. Non pas qu'il est sauvé, mais que voilà, il y a l'occasion de vivre et de côtoyer quelqu'un qui met Dieu au centre de sa vie. Une des autres explications, c'est plutôt lié au contexte de Corinthe. Je vous disais, hein, probablement que certains Corinthiens disaient que ils devaient s'abstenir de relations intimes et qu'ils devaient rompre les mariages, et notamment les Juifs. Peut-être vous avez des épisodes en tête dans l'Ancien Testament où Dieu à un moment donné a demandé à son peuple, voilà, qui s'était mélangé avec des peuples étrangers et qui leur avait dit chassez vos femmes et vos enfants. Il y a 2-3 épisodes dans la Bible. Donc je pense que des Juifs on peut être ça en tête, se dire mais maintenant j'ai une consécration à Dieu, je veux vivre en pureté, ben il faut que je me sépare de ce qui est impur, donc ça veut dire de celui qui est pas chrétien, de celui qui ne suit pas Dieu. Mais en fait Paul il est en train de montrer qu'en fait on n'est plus du tout dans le même contexte. Paul avait dit dans l'Ancien Testament il était question d'un peuple qui devait pas se mélanger, mais on sait qu'avec l'Évangile il y a plus de Juifs, il y a plus de Grecs, on est tous appelés une même famille, donc il y a pas de raison de casser quelque chose parce qu'on aurait désobéi, non, bien au contraire. La nouvelle alliance en Christ, le mariage, il est précieux et il ne doit pas être bafoué. La présence d'un non-chrétien dans un mariage ne le rend pas illégitime. Il est sanctifié. Dieu nous appelle à vivre en paix. Alors si le conjoint non-chrétien ne le souhaite plus, on voit que le chrétien n'est plus lié à maintenir ce lien de l'unité. On est conscient, hein, quand on lit ces textes, c'est un sujet pas facile. Sujet tellement sensible, contre-culturel. On constate tous des séparations pas faciles, mais on veut vraiment demander la grâce du Seigneur dans ces situations-là et d'avoir le regard que Dieu aurait, que le regard ou les paroles que Dieu poserait. Des fois, je me dis, j'aimerais être à la place, parce que quand on voit la manière dont il a agi dans les évangiles, Il a été tellement rempli de sagesse et de douceur face aux situations où quelqu'un de religieux aurait rejeté. Mais voilà, mettons-nous à la place du Seigneur. Qu'aurait fait Jésus à ma place? Donc on voit que le mariage, dans ces premiers versets, est un don, un engagement, à veiller à cette relation. On est au service de l'autre, à la fidélité, au prendre au sérieux cet engagement, même en période de tension. Le chrétien est appelé à chercher, à honorer Dieu. Je propose de poursuivre. Je sais qu'on est vous êtes peut-être sur votre faim, mais je vous propose de lire la suite, 17 à 24. Par ailleurs, c'est Paul qui continue, hein, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Quelqu'un était-il circoncis quand il a été appelé? Qu'il ne cherche pas à le cacher. Quelqu'un est-il incirconcis quand il a été appelé, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Étais-tu d'esclave quand tu étais appelé? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Frères et sœurs, que chacun, devant Dieu dans la condition qui était la sienne, reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. On a l'impression qu'il passe sur un autre sujet, mais en fait, dans ce passage, il y a vraiment le principe. On voit qu'il nous appelle à vivre selon l'appel reçu de Dieu. Vous l'avez peut-être entendu, hein, dans la lecture, il y a un refrain qui revient. Au début, à la fin et au centre, versets 17, 24 et 20, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. À vivre selon l'appel qu'on a reçu de Dieu. Le chrétien doit apprendre à être, pourrait dire, à être content de l'état dans lequel il se trouve lorsqu'il a rencontré le Seigneur. On a l'impression qu'il change de sujet. Il était question de sexualité, maintenant il parle de circoncision et d'esclavage. Mais il pose un principe vraiment fondamental, c'est l'appel de Dieu. La situation dans laquelle une personne se trouve quand elle vient à Christ n'est pas ce qui est important. Ce qui compte, c'est un cœur fidèle au Seigneur, content de son état et obéissant à la parole de Dieu. Je le disais tout à l'heure, hein, certains des Corinthiens pensaient devoir se séparer de leur conjoint pour devenir plus spirituel. D'autres disaient qu'il fallait à tout prix se marier, etc. Mais Paul exhorte à se contenter de sa situation, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a permise. Il n'y a pas une situation, en fait, on pourrait ressortir de ce petit paragraphe, il n'y a pas une situation où on serait plus spirituel ou plus proche de Dieu qu'une autre. On a des situations personnelles qui sont différentes. Et Dieu, à un moment donné, nous a rencontrés. Nous sommes appelés à vivre différemment, oui. Mais c'est pas ça ce qui est le plus important, c'est de se dire, ben voilà, il faut absolument que je devienne un tel ou de telle façon. Nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu, oui. Et on a des appels particuliers. En tant que chrétien, on devrait amener, on devrait vivre en fonction de ce que Dieu nous a donné, de cet appel que Dieu nous a donné. Ce que Dieu a fixé, ce que Dieu a décidé pour chacun d'entre nous. Et on le voit dans ce petit paragraphe, il prend deux illustrations pour montrer cette liberté nouvelle en Christ. On est libre en Christ. La première illustration, versets 18 et 20, parle de ses origines culturelles, il parle de l'incirconcision et la circoncision. Donc ça, c'est vraiment le rapport du juif par rapport aux païens au moment de la conversion. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait dit, il n'y a plus ni grec, ni juif, il n'y a plus ces notions d'appartenance, d'identité, de peuple. Il n'y a plus besoin en tant que chrétien de pratiquer la circoncision pour montrer qu'on est juif, qu'on est vraiment Dieu, enfin qu'on est un peuple de Dieu, pour plaire au Seigneur. De même, un juif ne devrait pas avoir honte de ses origines au point de dissimuler cette circoncision. Voilà, c'est ça le sens. Ce signe n'a plus de valeur devant Dieu. Voilà ce que Paul est simplement en train de dire en parlant de cela. Ce qui est important, c'est pas ça, c'est pas ces signes, c'est pas l'obéissance ou non d'une loi, mais c'est ce que Dieu a fait de vous. Dans Galates, Paul, il va dire un peu dans la même façon, parce qu'on pourrait se dire, il dit de plus être circoncis, mais néanmoins d'obéir aux commandements de Dieu. On pourrait se dire, mais c'est quoi les commandements de Dieu? Ce n'est pas la loi juive. Mais Galates 5, 6 et 14, il dit, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Verset 14 de Galates 5. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, aimer Dieu, c'est vivre notre foi, aimer son prochain comme soi-même. Ce qui est important, c'est pas que vous soyez d'origine juive ou d'origine païenne, hein, est-ce que vous avez la foi, est-ce que vous avez envie de lui plaire. La deuxième illustration qu'il utilise pour montrer cette liberté, c'est la dimension de l'esclave. À la lumière du Seigneur, que vous soyez esclave ou homme libre, il n'y a pas de différence. Tous les deux, vous avez été rachetés du Seigneur. Tous les deux, vous avez reçu pour prix de votre libération la mort de Jésus. Tous les deux ont eu besoin de l'Évangile. Et tous les deux, vous êtes maintenant serviteurs de Dieu. Alors l'esclave ne devrait pas s'inquiéter de sa situation, tout comme l'homme libre devrait réaliser qu'en fait maintenant il est esclave de Dieu, son maître. Nous sommes à Dieu. Vous êtes libre. On est dans le principe du contentement. Alors, on le voit hein, je vais pas le développer, mais Paul il encourage. Si t'as l'occasion de devenir libre en tant qu'esclave, fais-le. Profites-en. Vous voyez la cohérence de son enseignement? Soyez, voilà, suivant votre appel, convaincu qu'en fait Dieu vous a appelé à le servir avec votre situation, marié, non marié, célibataire, esclave, juif, non juif, d'origine non juive, etc. Pas de revendication. Il n'y a pas un qui est plus spirituel que l'autre. Il y a une grande liberté. Et là, on rejoint ce qu'on a partagé dimanche dernier. Il y a une grande liberté dans la vie du chrétien. On appartient maintenant à Christ. Et je trouve très beau ce verset 23. Hein, c'est encore un écho, un écho de tout ce qu'on entend dans 1 Corinthiens. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Les Corinthiens étaient en train de se dire... Un chrétien, c'est ça et pas ça. Et d'autres disaient, mais non, un chrétien, c'est ça et pas ça. Non, il y a une liberté. Il y a une liberté. Vous avez été racheté à grand prix. C'est ça qui fait le socle. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et c'est pour cela que dans trois fois dans ce paragraphe, Paul invite les chrétiens à se contenter de leur situation, à se rappeler de vivre selon l'appel que vous avez reçu. Que l'on soit marié, esclave, ou juifs, etc. Et je trouve que l'application de ce principe revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure en lien avec le mariage et viendra aussi en lien avec la troisième partie qui est en lien avec le célibat un peu plus spécifiquement. Vous connaissez l'expression « l'herbe est plus verte à côté ». Cette tendance à penser que la situation des autres est la meilleure ou la plus spirituelle. On partage tous, parfois, enfin tous, voilà, peut-être qu'il faut pas que je dise tous, parce que c'est pas le truc qu'on doit dire, on partage, parfois, une certaine forme d'insatisfaction. Rares sommes-nous à nous contenter de nos situations actuelles. Les célibataires ont l'impression que si seulement ils pouvaient se marier, tous les problèmes seraient résolus. Les mariés languissent après la tranquillité de jours sans femme, sans enfant, etc. À vrai dire, la parole de Dieu nous dit, on trouvera jamais le ciel sur la terre. Ni le célibat, ni le mariage, ni être esclave, ni être juif, ni etc. ne répond parfaitement au désir profond du cœur. Ne pensons pas que si on est dans telle situation, on sera plus proche de Dieu, ou que sais-je. L'appel de Dieu nous invite à vivre pleinement là où nous en sommes, dans cette relation vivante avec Dieu, pleinement acceptée. Le chrétien doit apprendre à dire avec David, qui dit par exemple au psaume 16, verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. » Voilà, c'est ça un peu la réflexion. « Tu es mon bien suprême. » Alors oui, on peut se dire de se contenter de vivre dans la situation qui est la nôtre au moment de notre conversion. Alors, bien sûr, il y a des situations où on doit dénoncer, il y a des situations où il doit y avoir des ruptures par rapport à notre vie d'avant, il y a des choses qui ne sont plus tolérables, bien évidemment. Quand il y a des situations dramatiques, y compris dans des couples, c'est pas parce que Paul nous encourage à vivre dans la situation dans laquelle on a été appelé qu'il y a parfois pas du ménage à faire dans beaucoup de situations, bien évidemment. Mais les difficultés ne devraient pas être un moyen de se dire c'est moins spirituel, il faut que je change. Non, vivons l'appel. Que le Seigneur nous a donné. Et je trouve que ce conseil de Paul est particulièrement approprié pour une personne qui est récemment convertie. La conversion est une expérience qui change radicalement l'orientation, notre corps, notre conduite. Mais cette conversion ne change pas radicalement nos situations de vie. Notre contexte. Parfois, on vit dans des contextes compliqués et qui sont différents les uns des autres. Apprenons à nous écouter, apprenons à nous soutenir, à nous encourager dans nos situations de vie qui sont différentes. Moi, j'aime beaucoup ce passage dans Luc 8, vous rappelez, où Jésus guérit un homme qui est possédé, et cet homme veut le suivre. Cet homme veut tout lâcher et veut le suivre. Et Jésus lui dit, non, retourne dans ta maison et raconte tout ce que tu as dit, tout ce que tu as vécu, tout ce que Dieu t'a fait. Je trouve que c'est beau parce qu'en fait, il est en train de dire, Il aurait pu dire oui, un disciple qui est zélé, qui vient de rencontrer le Seigneur, il lui dit non, rentre chez toi, rentre dans ton contexte, rentre dans ta vie de famille qui devait peut-être pas aussi être si facile et raconte ce que Dieu a fait. Moi, je trouve qu'on est beaucoup dans ce sens-là de se dire quand Dieu nous sauve, nous rachète, on est appelé à vivre notre appel de disciple, d'homme nouveau dans les contextes que Dieu nous donne, qu'on soit marié, célibataire ou que sais-je. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres situations. Voilà, bref. J'arrive à la troisième partie qui sera, j'allais dire, plus longue. Non, on ira plus rapidement. Versets 25 à 40. On reste dans cette même idée, vous allez le voir. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Un homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais vous les épargner. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Que ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, et ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée en la laissant dépasser la fleur de l'âge, si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il veut. Il ne pèche pas, qu'il se marie. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien et celui qui ne se marie pas fait mieux. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, mais si le mari meurt, il est libre de se remarier. Elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'esprit de Dieu. Bon, il y a beaucoup de choses, mais on est dans cette même idée de vivre selon l'appel dans lequel nous sommes. Et là, je trouve que Paul il montre de vivre le don du célibat. Et on le voit, je le disais tout à l'heure, Paul partage vraiment un positionnement très personnel lié à sa propre situation, à sa propre condition. Et on a l'impression qu'il est plus favorable au célibat. En tout cas, il donne plus volontiers son opinion à cet endroit-là, mais quand on regarde tout l'enseignement de Paul sur ce sujet-là, le mariage est tout aussi précieux sur son cœur que l'est le fait de ne pas se marier et de rester célibataire. En tout cas, moi je trouve qu'il a un ton vraiment pas autoritaire, il a un ton de conseil, de grand frère on pourrait dire, envers ses petits frères, ses petites sœurs, sur la base de ce qu'il vit, de ce qu'il expérimente, sur la grâce de Dieu dans sa propre situation. Et notamment, il encourage à vivre le don du célibat en considérant les circonstances actuelles du contexte de Corinthe notamment. Mais on pourrait y penser plus largement. Il y a un contexte, on pourrait dire, eschatologique. Le célibat lui semble préférable, pourquoi ? Verset 26, à cause des temps actuels de détresse. Verset 28, vous connaîtrez des souffrances. Verset 29, le temps est court. Verset 31, le monde actuel dans sa forme actuelle passe. Paul, on a l'impression en lisant dans sa réflexion que les temps à venir, que la situation qu'ils sont en train de vivre n'est pas facile. Alors, il n'est pas en train de parler de scène de ménage dans un couple. Il est vraiment en train de parler d'un contexte qui doit être pas facile à vivre si on est marié. Est-ce qu'il a des appréhensions ? Est-ce qu'il discerne que les temps seront plus difficiles devant lui ? Et ça a été le cas notamment pour ses premiers chrétiens. Ça a été pas facile, mais on le sait, pour une famille, les souffrances seront bien plus difficiles que pour une personne seule. On le sait avec les témoignages de nos frères et sœurs de l'Église persécutée, hein. Subir la torture pour sa foi n'est pas une chose facile à titre personnel, mais combien le malheur, et on a des quantités de témoignages, hein, où pour nous-mêmes, on souffre de voir notre enfant souffrir. Le nombre de fois où en tant que parent on a dit « Ah, j'aimerais tellement être à la place de mon enfant ». On est dans ce contexte-là. Paul, il dit, dans ce contexte difficile, il est peut-être avantageux de ne pas être marié. Réfléchissez. Parce qu'en tout cas, il semble que à Corinthe, des fiancés se posaient la question si c'était le bon plan de se marier. Et Paul y répond de la même façon, à chacun selon son don, à chacun selon son appel. Tu te maries, tu fais bien, tu te maries pas, tu fais... Voilà, mais voilà ce que je te dis un certain nombre de paroles de sagesse. Ne passe pas à côté de la volonté de Dieu. Et là, je trouve qu'on entend vraiment son cœur de berger, qui veut prendre soin des relations, qui veut prendre soin des uns et des autres. Il est préoccupé par les conditions de vie qu'auront les uns et les autres. Est-ce que Corinthe vivait une période difficile? Probablement. Est-ce que nous vivons une période difficile et on pourrait se dire, peut-être qu'il est avantageux pour toi de ne pas envisager le mariage? Le célibat est une bonne chose pour ceux qui en ont le don, et même préférable si on écoute Paul dans certaines situations. Mais le mariage, et on l'entend, est aussi une bonne chose, et même préférable pour ceux qui en ont le don. Vivons suivant notre appel. Le mariage va résoudre un certain nombre de difficultés, mais il va en créer d'autres. Et c'est le sens des versets là. Être célibataire, il y a un certain nombre d'avantages, mais il y a un certain nombre aussi de difficultés. Et Paul encourage à faire face aux différentes responsabilités. Le temps est court. Le temps de votre séjour sur terre est limité. Parfois, si on relit ce texte, on a l'impression qu'il est en contradiction avec ce qu'il vient de dire juste avant. Mais pour Paul, tout est acceptable. On peut se marier, on peut se réjouir, on peut pleurer, on peut acheter. Mais on ne doit pas oublier le Seigneur avant tout. Ne soyez pas partagés. Ne soyez pas partagés. On le sait, quand on est un mari chrétien, on doit jongler avec son travail, ses responsabilités familiales, ses loisirs, son repos, son service avec l'Église. Notre temps est limité. Et on comprend Paul, qui est un apôtre, qui est zélé pour l'évangélisation, qui est zélé pour faire des disciples. Il se considère que oui, effectivement, peut-être que dans mon cas de figure, dans l'appel que j'ai reçu, j'ai pas besoin d'être marié. On sait que Paul a été marié, un temps en tout cas, différents textes nous semblent le dire. Le mariage engage des responsabilités qui doivent être assumées. En tant que célibataire, on a plus de temps. Dieu et Paul souhaitent nous voir le servir au mieux et sans distraction. On le voit dans ce texte, que avant tout nous sommes appelés à nous attacher au Seigneur. Un couple qui maintient un foyer uni et heureux en Christ rend un témoignage lumineux dans un monde. En tant que célibataire, de la même façon. Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui donne. Plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur. On le sait que ceux qui sont mariés ont plus de préoccupations, je le disais tout à l'heure. Je suis encouragé parce que dans l'Église, plusieurs hommes mariés notamment, dans l'Église, ont fait le choix ces derniers temps de ralentir dans leur engagement avec l'Église, de se désengager. Alors on pourrait se dire, oh non, on en a besoin. Mais ils ont vu, au vu de la saison de leur vie de famille, au vu de leurs enfants que Dieu leur avait donné, qu'ils avaient besoin aussi de ce temps. Mais Paul, là où Paul dit quand même néanmoins attention, c'est de se dire, mais ça ne doit pas être une idolâtrie. Votre attachement est avant tout au Seigneur. Notre appel est avant tout dans la gloire de Dieu. Mon cœur est-il toujours aligné au bon endroit? Est-ce que je célèbre dans mes choix que je vais faire, dans un sens ou dans l'autre, à glorifier le Seigneur? Oui, vous êtes libre, mais dans l'attachement au Seigneur. C'est le Seigneur qui prime. Et même dans les derniers conseils, versets 39 et 40, quand il dit... qui a la possibilité parfois d'un veuvage ou d'un marié ou d'une épouse qui décède, Il évoque cette liberté, suivant votre appel, de vous remarier, mais suivant le Seigneur. Donc, il y a toujours à nouveau, au fil de tout ce chapitre qu'on a peut-être survolé, mais il y a toujours cette réflexion de plaire au Seigneur. Je suis appelé à plaire au Seigneur dans la situation dans laquelle je suis. Je suis appelé à vivre mon appel, à célébrer par mon corps, par mes relations, à avoir une attitude qui l'honore, qui le mette, lui, en gloire. Je voudrais simplement laisser quelques applications. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent avec la salle, mais quoique, hein, les applications sont là aussi. J'ai réfléchi différentes, par rapport à ce texte. Ben, je trouve que Paul s'adresse aussi aux jeunes, aux célibataires. Qu'est-ce qu'il dirait Paul face à ce texte? Ben, vivez pleinement votre position actuelle. C'est un moment propice pour développer votre relation avec Dieu. Il n'y a pas de pression, ni personnelle, ni sociale. Une liberté de pouvoir servir Dieu. Vous pouvez prendre du temps dans un service pour le développer dans le Seigneur. C'est un temps pour vous préparer aussi spirituellement, de formation, de lecture, de voyage missionnaire que on peut plus faire quand on est marié. Profitez pour cultiver des relations solides, d'amitié, dans l'Église. On en parlait avec plusieurs déjà ces dernières semaines, mais profitez de ce temps-là aussi peut-être de chercher une personne de confiance plus âgée qui vous accompagne. Je pense qu'on est là dans le sens de ce que Paul dit. Vivez votre appel pleinement. L'herbe n'est pas plus verte à côté. Pour les couples mariés, on pourrait se dire, ben Paul nous encourage vraiment à vivre notre mariage tel que Dieu nous le demande, de ne pas se priver l'un de l'autre. Un de mes conseils que je dis toujours, c'est lisez en couple un livre par an ensemble. Un livre qui parle du couple, de la famille. C'est tellement encourageant de remettre parfois des choses dans les rails. Prenez du temps entre vous, sans les enfants. Honorez votre engagement l'un envers l'autre. Appuyez-vous sur le Seigneur. Servez votre conjoint. Servez-le ensemble. Servez Dieu ensemble. Réfléchissez avec sagesse à vos engagements, suivant vos saisons de vie. Parfois, il faut dire stop à tel achat. Peut-être il faut dire stop à cette promotion alléchante professionnelle pour le bien de votre famille, pour le bien de votre engagement dans l'Église. Construisez des relations de confiance avec d'autres. Moi, je constate malheureusement de ne pas regarder le mariage comme le monde le voit. Réfléchissons à la manière dont Dieu voit le mariage et je crois que il y a de belles choses à vivre. J'aimerais nous encourager aussi en tant que couple marié à ne pas attendre lorsque les difficultés soient trop grandes pour s'ouvrir et partager avec un frère ou une sœur plus âgé. On constate en tant que pasteur, et on l'évoque à plusieurs de mes collègues, les gens qui évoquent leur séparation, leur rupture, ben c'est déjà trop tard, ils ont trop tardé, ils sont trop éloignés, il n'y a plus la confiance, etc. dans le couple. N'attendez pas, prenez des gens, soyez libres, enfin voilà, cultivez des amitiés avec qui vous êtes proches et vous savez, vous pouvez prier, le Seigneur écoute. Alors pour ceux qui sont mariés avec un conjoint non chrétien, il y a aussi le cas, le Seigneur nous encourage à continuer à être un témoin fidèle dans le mariage, à aspirer à vivre en paix avec ceux qui nous entourent. Que le Seigneur, ça peut être une prière, hein, que le Seigneur nous inspire dans les moyens que vous pouvez avoir pour être témoin de l'amour de Dieu, un amour inconditionnel, un amour respectueux, un amour qui est au service de l'autre. Vivez votre foi authentiquement, avec vos luttes, avec vos échecs. Demandez pardon, priez, demandez à prier pour vous, pour votre conjoint, etc. Pour les couples qui sont plus âgés, rappelez-vous vos engagements passés, rappelez-vous vos luttes, vos victoires. Offrez votre expérience comme témoignage aux plus jeunes. Partagez vos parcours de foi, partagez vos échecs, vos joies, vos défis. Et les bénédictions reçues de Dieu toutes ces années. Pour ceux qui sont veufs, les célibataires, plus âgés peut-être, rappelez-vous votre identité en Christ, votre espérance, votre sécurité. Il y a une quantité de ministères qui s'ouvrent lorsqu'on a du temps, mais dans la prière, dans le soin, dans l'écoute. Pour l'ensemble de l'Église, je me suis dit, quand j'ai vu cela, on est appelé chacun à vivre notre appel de façon différente. Mais Paul nous encourage à vivre, depuis le début du chapitre, le début de sa lettre, à vivre l'unité, à vivre la paix, à prendre soin des uns des autres, à rappeler notre fondement, vous avez été rachetés au prix de Christ. C'est ça qui doit faire partie de notre identité. Nous sommes là pour nous encourager à nous écouter, à respecter les décisions des uns et des autres, à partager entre les générations, à partager nos expériences, à partager nos défis, à aller vers les autres qui sont différents, à nous soutenir, à partager nos luttes relationnelles, tout en ayant en ligne de mire le désir de célébrer le Seigneur, celui qui nous a rachetés.